Voilà, nous allons commencer. L'heure est atteinte. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée d'éthique publique placée à un emplacement un petit peu différent de l'habitude, puisque c'est toujours le premier mardi du mois, mais à cause des vacances scolaires, nous avons dû décaler à ce troisième mardi. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas François Bouédet qui vous présente cette soirée, il est actuellement au Liban, mais c'est moi qui le remplace. Exceptionnellement. Pour cette soirée, donc, sur le thème de l'histoire. L'histoire, pourquoi faire ? Tel est le titre d'un ouvrage récent de l'historien Serge Grusinski, qui faisait écho à la question que le fils de Marc Bloch posait à son père : « Papa, explique-moi à quoi sert l'histoire ?» À la suite duquel, du reste, le grand historien a écrit un ouvrage répondant à cette question. L'histoire doit-elle servir et à quoi? Dans un article d'étude de novembre 2012, l'historienne Annette Wiewiórka rappelait ce propos de Jean-Noël Jeannenet. « Sans l'histoire, les enfants flottent à la surface d'un monde qu'ils ne comprennent pas. » Et aussi, les citoyens, ajoutait-il, sont abusés par le bombardement des nouvelles qui les assaillent, incapables de fonder leur jugement présent sur la mise en perspective du temps qui passe. L'histoire serait donc, dans cette perspective, la première servante de la démocratie. Sur ce thème de l'histoire, beaucoup de questions pourraient être posées. Quelle histoire est-il possible, souhaitable d'enseigner ? L'histoire doit-elle émouvoir ou instruire ? On aime beaucoup, depuis quelques années, les commémorations. Que commémore-t-on ? Ne risque-t-on pas d'instrumentaliser l'histoire ? Il y a tous ces débats autour de certains thèmes que l'on voudrait réprimer ou interdire. Y a-t-il un récit national ? Etc. La vocation de l'histoire ne serait-elle pas, en fait, de rouvrir l'avenir en partant du passé ? Ou plus précisément, de dégager du passé les possibles qui n'ont pas pu advenir, comme le suggère François Hartog. Multitude de questions possibles sur ce vaste thème, et pour les aborder, nous avons invité ce soir deux historiens qui sont en même temps de témoins engagés, qui chacun à leur manière font en quelque sorte profession d'y réfléchir. Jean Lebrun, dont je pense beaucoup connaissent au moins la voix, le nom et la voix, au moins par mes auditeurs de France Culture et de France Inter, où, comme vous savez, il anime l'émission La Marche de l'Histoire, tous les jours à l'heure de la sieste, depuis 2011, ou à l'heure de la vaisselle pour d'autres. Jean Lebrun est agrégé d'histoire et, avant la radio, une partie de sa carrière sur les ondes, il s'est exercé dans la presse écrite Combat, Esprit, La Croix. Franck Damour est aussi agrégé d'histoire, plus jeune enseignant, relativement, enseignant en lycée, au lycée de Blois, aussi chercheur associé à l'Université de Lille, sur le thème du transhumanisme. Il est aussi co-directeur de la revue culturelle Nunc, revue qu'il a lancée en 2002. Donc, comme d'habitude, nous aurons deux interventions. Jean Lebrun commencera, chacune d'une vingtaine de minutes environ, à la suite desquelles, eh bien, la salle aura la parole pour un bon temps de questions. Jean.
Moi, je ne sais pas comment marchent les micros. Ça me va bien, François Hevé, que vous me présentiez comme témoin, parce que j'avais l'intention de parler de la pratique de l'histoire. Mon maître, Alphonse Dupron, je ne peux pas cesser de le citer dès que je fais un topo sur l'histoire. C'est aussi le maître d'Olivier Clément, auquel Franck Damour a consacré un livre. Disait, il avait un langage un peu précieux, je vous en préviens, pas d'abstraction sommarisante. Enfin, pas d'abstraction qu'on puisse résumer dans une table des matières, dans un sommaire, parce que la clarté a des ressources insuffisantes quand on parle d'histoire. Donc, c'est de la pratique qu'il faut partir. Je partirai de ma pratique très lointaine dans la plus haute antiquité de professeur, et puis surtout de la pratique d'animateur, c'est un joli mot, animateur de radio. Aux gens qui me demandent « mais pourquoi ce titre, La marche de l'histoire, qui est en fait imitée de l'émission de Cavada, La marche du siècle », je réponds, pour prendre de la hauteur, que j'essaye de marcher à hauteur de femmes et d'hommes d'aujourd'hui au bras du temps. Pas mal, hein ? À quoi certains qui voudraient une abstraction sommarisante me disent « mais alors, vous êtes l'instituteur national », ce qui me fait froid dans le dos, parce que ça veut dire que je suis porteur d'une idéologie. Le mot idéologie, je ne le prends pas dans un sens négatif, c'est l'ensemble des images, des représentations, des symboles qu'une société ou une nation se forme pour justifier qu'elle existe telle qu'elle est. Et l'idéologie a besoin d'être confirmée dans ses symboles fondateurs par le récit historique. Ce qui est quand même très difficile aujourd'hui dans l'état de fracturation de la France que je n'ai pas besoin de vous décrire en détail. La France est une orchestration dont on se demande où sont les chefs d'orchestre. Alors c'est d'autant plus difficile d'être le porteur d'une idéologie, d'en être l'instituteur, qu'il faut se poser la question, mais alors, ton identité à toi, déjà, quelle est-elle ? Alors, j'imagine, François, que le public ici sait ce qu'est le polyèdre. Il lit les textes du pape François. Le pape François parle du monde comme d'un polyèdre. C'est-à-dire d'un objet assez étrange qui n'a rien à voir avec la sphère qui se suffit à elle-même et qui est faite de nombreuses surfaces planes, chacune ne constituant qu'une part minoritaire du tout. Alors quand je me demande quelle est mon identité, je vois que je suis toujours minoritaire. Mes parents étaient minoritaires, ils étaient bretons. Et quand on est breton, on n'est pas spontanément français. On n'est pas spontanément républicain, en tout cas. Ils étaient ouvriers, et ils votaient MRP, puis gaullistes. Et oui, il y a une part du monde ouvrier qui est au centre ou à droite. À Radio France, on me considère comme le cateau de service. Alors là, je suis hyper minoritaire, parce que s'il y a une société absolument allergique au monde religieux, c'est la société journalistique. J'ajoute, sans vouloir choquer les gens dans la salle, que j'appartiens, enfin je relève, d'une minorité sexuelle dont j'imagine qu'elle n'est pas connue intimement de la majorité d'entre vous. Et puis alors, j'oubliais, j'aime beaucoup cette formule de Jacques Julliard quand il reçoit la cravate de commandeur de la Légion d'honneur, mon conseil d'administration intérieure est extrêmement divisé. Et comme lui, moi j'ai, si je calcule, 25% de vieil ultracisme catholique, vous savez, dans le genre Bernanos, 24% de libéralisme, 49% de social-démocratie. Je suis l'indécis type et je dois toujours faire des arbitrages douloureux. Alors, c'est une situation qui n'est pas sans avantage quand on veut faire de l'histoire. Peut-être pas quand on veut être l'instituteur d'une idéologie, mais quand on veut essayer de comprendre l'autre. Moi, spontanément, je suis d'accord avec l'autre et je cherche les raisons communes qui pourraient nous faire partager la même vision du monde. Tu es un instituteur national. Ouais. Ça, c'est Régis Debray, une fois qu'il m'a dit ça. Il a besoin d'instituteurs nationaux. Mais alors, les dirigeants de la radio, c'est pas du tout le langage qu'ils tiennent. Tu es un conteur. Vous savez, parce qu'il y a toujours une vision dans les médias d'une histoire entertainment, loisir, décalée, délassante. Au fond, c'est pas mal d'être un conteur, parce que au moins, à la différence de l'instituteur qui doit transmettre une idéologie, Le conteur, il choisit son intrigue et il va retenir des événements, des personnages passés, tout ce qui lui paraît important pour l'intrigue qu'il veut raconter. Avec une insistance, c'est important ça, dans la transmission radiophonique ou pédagogique, pour le petit fait vrai. Vous savez ce que disait Charles Péguy, il faut voir et dire ce que l'on voit. J'ai un modèle, bon c'est un roman qui est extrêmement long, que plus personne n'a lu depuis des générations, donc Camus, quand il l'a reçu, a dit « les soirées doivent être longues à Saint-Brieuc ». C'est un roman écrit à Saint-Brieuc par Louis Guillou, et qui s'appelle « Le jeu de patience », et qui est un essai d'histoire de la ville qu'il appelle Saint-Brieuc-des-Choux, ou bien Boeuf-Gorod, par affection. Et sont mêlés là des récits de toutes les époques, enfin depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe, où il y a le médecin radical, c'est l'anti-clérical à front bas, le vieux légitimiste, pas nécessairement plus intelligent, l'évêque en titre, et puis un évêque dissimulé qui a été mis à la retraite, là, pour on ne sait quel fait, modernisme peut-être, l'employé progressiste qui croit à la paix, les compagnons, les ouvriers. Et dans l'atelier de l'artisan, il y a une femme silencieuse qui observe tout ça, que personne ne voit, et qui s'appelle Mona. Mona Ozouf est disciple de Louis Guillou, et il avait choisi ce prénom en son honneur. C'est un peu l'historienne de la ville de Saint-Brieuc aux côtés du narrateur. Et le narrateur, il entremêle les points de vue. Et surtout, ça c'est la ligne de fond de ce livre, et qui devrait être la ligne de fond des historiens, ne jamais oublier l'immense peine des hommes. Formule que Georges Duby a emprunté à l'un de ses professeurs. Et moi, ça me rappelle toujours, et je l'ai en tête parfois quand je parle à la radio, le vieux cantique de mon ou de notre enfance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, François, de la mine à l'atelier, du moulin jusqu'au pressoir, vous êtes trop jeune. Vois, Seigneur, ici, l'humanité rassemblée. Ça, c'est très important de garder cette note basse tout au long du récit qu'on tente de faire et qui peut s'apparenter, chez le conteur, au roman. Alors quand on me parle de roman national, abstraction sommarisante, moi j'ai tendance à répondre roman tout court. Jean d'Ormesson n'a pas fait de thèse et il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « La gloire de l'Empire » avec tout un appareil d'érudition et toutes les apparences de la vraisemblance où il raconte un pays imaginaire et qu'on peut faire sien à tel point qu'il m'a raconté qu'une femme de ministre lui avait écrit après « La gloire de l'Empire » en lui demandant une bibliographie supplémentaire. « Est-ce qu'il y a d'autres livres, demandait-elle, qui parlent de ce pays extraordinaire ?» Alors on a une identité multiple quand on fait des récits d'histoire, et puis il ne faut jamais oublier les identités multiples de ceux qui reçoivent le récit et qui le reçoivent à leur façon. Notre transmission est tout involontaire. J'accompagnais vendredi un de mes anciens collaborateurs qui s'appelle Benoît Lagan et qui faisait un spectacle sur la manière dont les séries télévisées, il est sériphile depuis l'enfance, avait modifié sa vision du monde et fait toute sa culture. Alors ce garçon, il est de La Française, c'est un chef-lieu de canton du Tarn-et-Garonne, et il racontait dans son spectacle comment les Lagans, il appelait sa famille les Lagans, étaient transformés dans sa vision par la fréquentation que lui avait de Dallas. Et il imaginait que les vallées luxuriantes du Tarn et Garonne ressemblaient au Texas et que dans les repas de famille, il y avait un oncle du genre J.R. qui venait expliquer aux vignerons de la maisonnée qu'il fallait valoriser autrement leur production, gagner la richesse et trouver du pétrole dans le Tarn et Garonne. Et c'est pas seulement les âges qui peuvent modifier la perception de la transmission que l'on essaye de faire. Faut toujours garder quand même les rêves de son enfance. Faut être, disait Bernanos, guidé par son enfance. L'histoire, elle est tissée des rêves d'enfance que l'historien doit essayer de rejoindre. Mais il y a aussi des expériences sociales très différentes des gens qui vous entendent. Encore un souvenir de la plus haute antiquité, un collège, non pas mariste, mais jésuite, dont j'étais l'élève, et moi j'étais le petit chose. J'étais là parce que mes parents m'avaient poussé et que les bons pères devaient me faire des prix. Et je me souviens du cardinal Renard qui était venu expliquer l'histoire sociale et industrielle de la France et qui s'est mis à nous engueuler en disant « Vous vous rendez pas compte, derrière le mur, là, il y a les gens que vos parents exploitent et vous êtes vous assis sur un tas de privilèges. » Et moi je comprenais pas pourquoi on m'engueulait comme ça et ça m'a longtemps troublé. Le récit se démultiplie à la faveur de la différenciation entre les auditeurs. Autre expérience, une antiquité un peu plus tardive. Franck nous parlera de son expérience de professeur, mais moi j'ai été professeur à Saint-Denis, dans un lycée chaud, et à l'époque de Giscard. À l'époque de Giscard, dans ce lycée, il y avait des exilés de toutes sortes qui étaient là dans la classe. Il y avait des exilés chiliens, chassés par le régime de Pinochet. Il y avait des bot people, chassés par le communisme. Et je me souviens d'un cours extraordinaire sur l'émigration. Enfin, c'était pas le cours qui était extraordinaire, c'était les réactions des auditeurs qui l'étaient. Donc j'avais dû parler de Chateaubriand, qui a fréquenté cette maison, enfin, quand elle était l'apanage de Madame Récamier, se retrouvant pauvre et solitaire à Londres et donnant des cours particuliers. J'avais aussi parlé des pauvres qui avaient émigré pendant la Révolution française et qui étaient infiniment plus nombreux qu'on ne le dit d'habitude. Et là, les élèves s'étaient mis à réagir. Les élèves chiliens racontaient leur expérience de l'exil. Les élèves anticommunistes venus de l'ex-Indochine racontaient la leur. Et vous parliez, François, de l'histoire première servante de la démocratie. Quand on arrive à établir dans une classe un dialogue de ce genre, ça provoque une énergétique de la rencontre. Au fond, à mon sens, l'histoire, c'est pas la répétition de l'identité, c'est l'expérience de l'altérité. Et cette expérience personnalisée de l'altérité peut devenir une thérapie. Il n'y a pas de leçon de l'histoire, mais il y a un acte dans le fait de faire histoire qui ressemble un peu à l'art de la médecine, enfin je dis l'art de la médecine, qui est tout fondé sur la singularité de chacun et qui est convaincu qu'aucune expérience n'est reproductible, il n'y a pas d'automaticité. Et j'en viens à la dernière réflexion, je serai court au fond, parce que maintenant on me demande 2 minutes 40 à 7h20 le matin et je n'arrive plus à faire très long. Très long. Je dirais moi que l'objet de l'histoire, c'est après mûre réflexion que je me suis aperçu de ça, c'est pourtant de l'ordre de l'évidence, c'est pas le passé, mais c'est le temps. L'historien, c'est un homme qui marche au bras d'autres hommes et d'autres femmes, au bras du temps. Alors le temps, qu'est-ce que c'est ? Henri-René Maroux citait tout le temps dans ses cours Saint-Augustin. Si personne ne me demande ce que c'est que le temps, je le sais. Si quelqu'un me le demande, soudain, je ne le sais plus. Et Alphonse Dupron, le maître d'Olivier Clément, qui est le maître de Franck D'Amour, disait, c'est surtout pas un fleuve. C'est surtout pas un fleuve lequel aurait une origine, lequel suivrait son cours. Le cours déborderait de temps en temps, des affluents viendrait l'enrichir. Vous savez, comme il y a des causes qui provoquent des conséquences, et puis il y aurait une embouchure. Le temps, ça ressemble davantage au Larzac. Je veux dire à un relief karstique, comme on les enseigne quand on fait encore quelques cours de géographie parallèles aux cours d'histoire. C'est-à-dire que les eaux disparaissent, elles vont se diriger souterrainement, sans qu'on sache où et comment. Je vais de temps en temps au Larzac, sur le Larzac, non loin de l'Odève, à un endroit où les habitants attendent qu'une simple doline devienne, tous les 7, 8, 10 ans, on ne sait jamais très bien à quel rythme ça se répète, un lac. Et il y a un lac éphémère qui apparaît, alors que chacun vient observer et admirer. C'est ça le temps, c'est le passé qui revit C'est le passé qui surgit, c'est le passé qui est à l'état de latence, et puis qui peut devenir soudainement une puissance. C'est-à-dire que l'historien, c'est le sourcier des eaux encloses. Alors, dans cette conception-là, le passé ne va jamais se ressembler très longtemps. Quoi de neuf, le passé change. Ben, pour prendre un exemple devenu commun, quand je passais l'agrégation, il y avait au programme l'occupation, on ne parlait pas beaucoup de la question des Juifs. Et puis après, Auschwitz a recouvert Buchenwald. Et maintenant, on redécouvre Buchenwald. La résistance a recouvert la France libre. Et maintenant, on redécouvre la France libre. Il y a toujours, sous le temps, dans le passé, des hommes et des femmes dont la présence, la lumière, cherche à nous rejoindre et à qui il faut tendre le bras. Donc le passé, il est plein de virtualité. Vous employez le mot virtualité tout à l'heure. Il est criblé d'avenir. Encore une image qui m'a frappé l'autre jour à Vichy. Je rencontre la fille de Jean Zay. Elle avait rendu visite et s'en souvenait parfaitement à son père, ministre de l'instruction publique, emprisonné sous Vichy à la prison de Rion. Et la prison de Rion, maintenant, elle est détruite. Et elle me disait, j'ai une mémoire très précise des dalles de pierre de Volvic, que moi, tout enfant, je voyais sous mes pas, et qui résonnaient. Et puis elle me présente, elle a plus de 80 ans, son nouveau compagnon, avec lequel elle vient de refaire sa vie. Et elle me dit, c'est curieux, la prison est détruite et mon compagnon a dans sa maison les mêmes dalles de pierre de Volvic que j'ai vues quand j'allais rendre visite à mon père. Ça veut dire que le passé est là pour elle, mais il est devant elle. J'ai fait l'autre jour une émission sur Faulkner, donc on est dans le sud, dans un comté apocryphe du Mississippi. Et on est dans un salon de coiffure, il fait très 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 chaud. De la chaleur surgit une rumeur. Un nègre aurait violé une demoiselle dans le village. Et tout d'un coup, en quelques pages, dans une nouvelle très brève, Faulkner fait surgir la guerre de sécession qui est là, devant nous. Elle n'est pas derrière nous. De même, Alphonse Dupont, avant, dernière citation peut-être, avait fait une thèse extraordinaire sur la croisade qu'aucun d'entre nous n'avait lue parce que c'était le secret le mieux gardé de l'université française et qu'elle n'était pas publiée. Qui aurait pensé, 20 ans, 30 ans après sa disparition et la publication posthume de ce livre, que l'idée de croisade serait devant nous? Le passé ne se ressemble pas. Et l'avenir ne peut pas ressembler au passé, c'est-à-dire que jamais les mêmes conséquences ne sont les conséquences des mêmes causes, et d'ailleurs les mêmes causes ne sont jamais rassemblées, alignées les unes à côté des autres, comme elles l'avaient été autrefois. La première catégorie de l'histoire, François l'a suggéré tout à l'heure, c'est pas le souvenir. La première catégorie de l'histoire, c'est le devenir. Et l'histoire, c'est une discipline de confiance en l'avenir. Rouvrir le passé au nom de l'avenir. Et si crise il y a aujourd'hui, c'est une crise du devenir. Tant qu'on aura oublié que l'avenir est en marche, n'y voyez aucune allusion, telle une promesse, le passé sera immobilisé. Et ultime citation d'Alphonse, saint Alphonse, n'en sortiront que des vapeurs méphitiques et nous serons peu à peu intoxiqués par le sentiment masochiste du déclinisme. Mais en même temps, comme dirait Macron, sans le passé, l'avenir, c'est n'importe quoi.
Merci. Merci Jean de cette entrée en matière. Dans cette matière de l'histoire,
Entre le sourcier des eaux encloses et l'instituteur national, je pense que le choix est facile à faire. En vous écoutant, je pensais à un article récent de Jean-Luc Marion, soulignant aujourd'hui le retour, c'était dans le contexte qui nous intéresse ces semaines actuelles, du retour de l'événement, et que justement nous ne sommes pas, ou plus, enfin nous n'avons jamais pour le moment été, dans l'enchaînement des causes et des effets, et l'historien n'est pas justement celui qui relève une sorte de logique, de loi cachée derrière cette succession d'événements, mais plutôt celui qui réveille justement des potentialités, des possibilités, des éléments d'espérance aussi dans ce que le passé contient. Merci donc pour cette première présentation. Je me tourne maintenant vers Franck Damour, l'enseignant en activité. Voilà comment ceci fait réfléchir sur l'histoire.
Merci. Alors, je suis très heureux d'avoir entendu parler d'Alphonse Dupron. C'est à lui que je dois, en fait, d'enseigner, effectivement. Alors, indirectement, mais d'enseigner ce travail. Tout à l'heure, vous avez comparé un peu un professeur d'histoire ou un historien ou celui qui professe l'histoire, qui compte l'histoire un peu à un médecin. Je suis assez d'accord avec cette analogie parce que, à vrai dire, cher François, quand j'ai accepté de venir parler ce soir, tout de suite, je l'ai regretté. C'est-à-dire, ça fait à peu près 3 semaines que j'essaye de mettre au clair des choses, et chaque fois que j'écris quelque chose, je vois tout de suite surgir le visage d'un élève. Alors, donc, je raye, je rature, et puis je commence à écrire le contraire, et évidemment, un autre visage surgit, et donc, tout ça finit à la poubelle. Pourquoi ? Parce que un ars, au sens ancien du terme, un peu d'artisanat, hein, et un ébéniste, si vous lui demandez la théorie du meuble, ben, il vous montre un meuble, ou il vous invite dans son atelier, mais il va pas vous faire un long discours sur ça. Alors j'aurais bien aimé vous inviter dans ma classe, mais mes élèves sont en vacances, et je crois qu'ils auraient guère apprécié que je les convoque à ce moment-ci de leur congé. Donc on est 38 000... Hein, j'ai cherché le chiffre, je ne savais pas, mais j'ai trouvé ça, 38 000 profs d'histoire en France aujourd'hui, et en charge de porter le récit national. Enfin, en tout cas, c'est ce que régulièrement on nous resserre. Alors, je vais partir de cette question-là, parce que, finalement, comme je ne savais pas trop quoi raconter, je me suis dit, je vais prendre un os à ronger, et puis on verra bien ce qui en sortira. Hein. Cette question du récit national, ou du roman national, hein, elle revient de façon récurrente depuis au moins les années, fin des années 70, hein, ou depuis les années 80. Je voudrais donner une citation. « L'enseignement de l'histoire de France est une guerre civile permanente qui nous livre d'avance à l'ennemi. » Alors on croirait entendre un chroniqueur de certains plateaux télévisés actuels, mais non, c'est Fustel de Coulanges, en 1872, dans une revue qui maintenant est assez célèbre, la Revue des Deux Mondes, où il comparait le modèle allemand au modèle français. Vous voyez comme quoi le débat politique en France se renouvelle beaucoup, donc depuis 1872 jusqu'aux années 70 et jusqu'à nos jours. Donc, en salle des profs, bon, à l'expérience que j'ai, hein, j'ai pas consulté les 38 000 collègues, mais on parle franchement pas de cette question-là. Hein, c'est une question qui est plutôt développée à l'extérieur. Alors, quelques collègues nous piquent, hein, de façon cognarde. Alors, aujourd'hui, tu vas parler des Gaulois, etc. Ça les fait un peu sourire, mais c'est pas vraiment un sujet. Et donc, voilà, en tant que praticien ou enseignant d'histoire, c'est pas une question qui me paraîtrait importante. Dans un premier temps. Déjà, d'une part, parce que ce débat est assez caricatural entre, je dirais, deux camps qui s'opposent souvent dans les médias et pas forcément dans la réalité d'ailleurs, entre d'un côté les républicains, on va dire les patriotes, et ceux qui seraient plutôt tenants d'un enseignement de l'histoire de France, qui serait plus inscrit dans d'autres échelles, qui serait, je sais pas, les universalistes, qui recoupent aussi une vieille bataille que vous connaissez sans doute entre les pédagogues d'un côté et les républicains de l'autre, vous savez, ceux qui sont pour ou contre la dictée ou l'enseignement du latin, etc. On n'a pas vraiment... Voilà, il y a quelque chose qui se répète de façon un peu figée, avec l'idée que Il s'agirait, à travers un certain programme qui mettrait l'accent ou non sur la France, de répondre à un défi du présent qui serait l'intégration. Alors dans les années 70, ça serait l'intégration des banlieues, hein, fin des années 70, début des années 80. Après, on a parlé de l'immigration. Aujourd'hui, on parle plutôt des populations musulmanes. Voilà, pour dire les choses un peu de façon caricaturale. Voilà. Alors, c'est une question qui nous semble finalement assez peu concerner l'école, parce que quand on regarde les programmes, l'histoire de France est très présente. À peu près un quart, un tiers dans le secondaire. Alors je ne parlerai pas trop du primaire, parce que là c'est un peu plus compliqué. Je pense que déjà que l'histoire soit enseignée, c'est pas forcément toujours aussi central que ça a pu l'être. Mais dans le secondaire, voilà, il y a une forme de stabilité sur la place de l'enseignement de l'histoire de France. Hein, ça n'a pas vraiment changé. Alors les programmes sont tantôt un peu plus, on va dire, patrimoniaux, hein, comme le programme de 1995, ou un peu moins, hein, comme celui de 2008 par exemple. Mais bon, de toute façon, ce sont juste des programmes. Un programme, c'est, j'avais amené l'exemplaire, mais je l'ai laissé là, c'est 15 lignes. Une année de cours avec une classe, c'est entre 120 et 140 heures, hein, bon an, mal an. Donc on s'imagine bien qu'entre 15 lignes et 120 heures de bavardage, il y a un écart très important. Et cet écart, c'est le programme mis en œuvre. Hein, le programme mis en œuvre qui est nourri pas tellement des instructions officielles, qui sont finalement assez restreintes et limitées, mais tout simplement de la culture historique des enseignants initiales, et aussi la culture qu'ils acquièrent, notamment en écoutant certaines émissions à 13h30, lorsqu'on arrive
ça, vous
à avoir...
Vous êtes optimiste.
Voilà. Lorsque... Mais bon, on devrait peut-être sanctuariser 7h, je ne sais pas. Bref. Voilà. Donc, en tant que prof... Je dirais que cette question d'un récit national, ma réponse c'est, alors c'est pas très, c'est plutôt bof, voilà, c'est pas vraiment une question intéressante. Maintenant, en tant que citoyen, c'est une question qui, elle, peut prendre un sens. Et je dirais que si elle traverse pas les salles de profs, elle traverse la tête des profs, notamment lorsque on pense aux élèves que l'on rencontre. Et en fait, j'avais le sentiment, hein, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'enseigne, j'ai eu à peu près 4000 élèves, quelque chose comme ça, j'avais le sentiment qu'ils sont porteurs d'un récit national. Alors, assez loin de celui que j'enseigne d'ailleurs, hein, comme quoi la modestie est toujours très utile. Et il se trouve que l'année dernière, alors il me semble, j'ai pas vérifié la date, une étude a été publiée par une sociologue, Françoise Lantôme, Récit du commun, hein, c'était l'année dernière je pense, hein. Elle a interrogé plus de 6000 élèves en France, d'endroits très différents, hein, y compris la Guyane, je crois, la Corse, dans des milieux, des établissements très variés, en leur demandant de raconter l'histoire de France. Et qu'est-ce qu'elle ressort finalement, à peu de choses près, l'histoire de la vis. Hein, c'est-à-dire l'histoire de France, c'est l'histoire d'un peuple qui, à travers une série de crises, de guerres, réussit à progresser vers plus de liberté et plus d'égalité, de façon continue. Hein, des rois jusqu'à nos jours, avec quelques figures qui surgissent, hein, donc Charlemagne, Louis XIV, Napoléon. Moi, j'aurais bien rajouté De Gaulle, parce qu'il fait partie de l'imaginaire de nombreux élèves. Donc, il y a une forme d'histoire de France, de récit national en tout cas, qui est même parfois assez loin de ce qui est enseigné, qui ressemble un petit peu à La Grande Vadrouille, hein, c'était plus... Dimanche soir, je crois qu'ils ont projeté encore La Grande Vadrouille à la télévision, plus de 6 millions de personnes l'ont regardé, et voilà, c'est une France extraordinaire. Hein, Vichy n'existe pas, tous les Français sont résistants, et ça se finit bien, et on gagne la guerre en plus. Hein. Chaque année, je suis toujours, quels que soient les élèves que j'ai, ils sont toujours étonnés de voir que en 44, lorsque les Américains préparent le débarquement, ils ont mis sur pied tout un système pour occuper la France, hein, pour remplacer même la monnaie française. Parce que, ma foi, la France est considérée comme un pays qu'il va falloir occuper, au même titre que l'Allemagne, c'est un pays ennemi. Et les élèves, à chaque fois, me regardent les yeux exorbités, mais comment, c'est pas possible, on est du côté des gentils, c'est pas possible que les Américains nous aient traités de la sorte. Voilà, il y a cet imaginaire-là, je ne sais pas, c'est cette mythe histoire, hein, ce mythe qui est profondément ancré. Et en même temps, depuis, je dirais, une dizaine d'années, alors peut-être parce qu'auparavant, je ne m'en rendais pas compte, hein, il y a des attitudes de récits parallèles ou des récits parallèles qui se développent de plus en plus, qui prennent des formes de, je dirais, de sortie de cette histoire, de ce récit national, de façon très différente, se nourrissant notamment, mais pas toujours, de façon toujours très complète, des théories du complot, des récits alternatifs, alors parfois reliés à des environnements très spécifiques. Lorsque je pense à une élève il y a 3 ans qui m'expliquait que la France est de toute façon une terre musulmane, puisque les musulmans sont déjà venus jusqu'à Poitiers au moins, et qu'il s'agit donc juste de rendre à l'islam une terre qui lui appartient. Alors voilà, et de même, dans la même classe, hein, un autre élève m'expliquant que de toute façon, depuis que la Révolution française a eu lieu, eh ben c'est, la France est en situation de crise, puisqu'elle a perdu ce statut qui était la sienne d'être la fille aînée de l'Église. Et donc alors là, je prends des cas vraiment très, comment dire, très particuliers, très forts. Souvent, ces récits alternatifs sont beaucoup plus diffus, mais ils existent, et je trouve qu'ils témoignent un peu d'une forme de sortie, peut-être un peu, ou de troubles, d'inquiétude par rapport à cette question d'identité. Et je mettrai ça sur le même plan que ces jeunes gens, de plus en plus nombreux, alors pas forcément dans les mêmes classes sociales, qui, lorsqu'on réfléchit à leur projet d'études, nous disent d'abord, surtout, je ne veux pas être en France plus tard. Voilà. Donc je veux partir. Alors parfois, ça peut être un projet d'études, mais certains, un nombre croissant qui n'existait pas auparavant, formulent cela. Et en même temps, alors là, je peux dater plus précisément, parce que ça fait 5 ans exactement que pour la première fois, j'ai vu un élève me dire, toujours en discutant de l'orientation, « Moi, je veux servir la France ». Et de plus en plus, je vois des élèves dire cela, de façon très simple, hein, sans faire de grands discours. « Je veux servir la France en étant juge, dans l'armée, en étant enseignant, en faisant médecine, pour servir mon peuple ». Donc il y a effectivement une sorte de bouillonnement autour de cette question, et je pense que si certains hommes politiques, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, je ne pense pas que les autres aient employé cette expression, peut-être que je me trompe, parle de récit national, c'est peut-être par rapport à ce bouillonnement ou cette incertitude-là. Alors, je pense qu'il se trompe en demandant aux profs d'histoire de prendre en charge ce récit, parce que s'il a pu fonctionner au temps d'Ernest Lavis, hein, au temps de la Troisième République, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus pour plusieurs raisons. Sans doute, une des raisons les plus importantes, c'est que nous avons changé de rapport au temps, de rapport à l'histoire, de rapport au futur et de rapport au présent. Hein, comme François Hartog l'a décrit, nous ne sommes plus dans le même régime d'historicité. C'est-à-dire que notre rapport au temps, au passé, n'est plus le même. Si le récit d'Ernest Lavis, ce récit national, qui montrait donc ce progrès, hein, de la France et d'un peuple qui construisait plus de liberté, avait un sens, c'est parce qu'il relevait d'un régime d'historicité où le passé et le futur étaient éclairés, et le présent, pardon, étaient éclairés par le futur. Or, aujourd'hui, depuis les années 80, ce n'est plus le cas. Hein, le futur a pris la couleur de la catastrophe, catastrophe écologique, catastrophe technologique. En tout cas, il est devenu quelque chose d'incertain, de troublant. Et quand on voit le futur comme une catastrophe, c'est qu'on le juge simplement à partir du présent. C'est-à-dire que c'est une catastrophe dont nous serions responsables. Le passé lui-même n'est plus vraiment un passé en tant que tel. En tout cas, il a pris des formes qui n'étaient pas les formes qu'il avait auparavant. Il a pris la forme du patrimoine. Le patrimoine, c'est un passé perdu que l'on essaye de conserver, un passé en miettes. Chacun a son patrimoine. Alors, les journées du patrimoine sont une grande réussite, mais je ne suis pas certain qu'elles témoignent, même si c'est une fête populaire et que ça a lieu sur une seule journée, d'un sentiment d'unité très, très, très fort. Et donc, nous serions, selon François Hartog, plutôt dans un régime du présentisme, c'est-à-dire voilà, d'un présent qui définirait tout sans qu'il puisse fixer les choses de façon très claire, parce que ce présent, il fait du passé simplement du patrimoine ou des mémoires, j'y reviendrai, c'est une question très importante dans les salles de classe aujourd'hui, du futur une catastrophe, mais un présent qui lui-même est saturé d'informations, saturé de communication, et qui lui-même manque, le moins qu'on puisse dire, de clarté hein, et d'incertitude. C'est sans doute un des mots les plus couramment utilisés par les journalistes actuellement, d'ailleurs. Voilà. Bref, nous vivrions dans un monde façon puzzle, pour reprendre l'expression de Bernard, je ne sais plus, oublié, dans Les Tontons Flingueurs, un monde, un temps dispersé, disloqué, d'où le succès des théories du complot, plus ou moins élaborées, parce que l'avantage de ces théories du complot, c'est qu'elles semblent mettre de l'ordre et un peu de cohérence. Alors, du coup, dans ce genre de situation, faire appel à un récit national, dire qu'il faudrait que les programmes enseignent plus l'histoire de France comme est enseignée, paraît-il, je ne sais pas, l'histoire de la Chine aux jeunes Chinois aujourd'hui, comme une succession de grands noms et allant vers un avenir glorieux, il me semble que ça relève plutôt de ce qu'on appelle le storytelling, vous savez, cette méthode de communication qu'utilisent les entreprises, les hommes politiques aussi, où on raconte une histoire pour faire comprendre ou adhérer pour obtenir une adhésion à un moment donné. Et la particularité du storytelling, c'est que ces histoires, elles sont en concurrence les unes avec les autres. Et il y a une histoire ou un récit qui doit s'imposer par rapport aux autres récits qui doivent être étouffés. Donc, il ne me semble pas que ce soit, si tant est que ce soit une bonne solution, une bonne réponse. Je dirais, pour reprendre le titre d'un manifeste de 2005, qui était initié par René Raymond, hein, à la suite de toute une série de lois mémorielles, il faudrait plutôt libérer l'histoire. Hein, c'est-à-dire que, pour reprendre un peu la comparaison avec le médecin, effectivement, l'histoire a une fonction thaumaturgique. Paul Ricoeur disait que le but de l'histoire, c'était, enfin, une de ses fonctions, c'était de soigner les mémoires blessées. Et je crois que c'est effectivement ce qu'on peut faire à chaque heure, dans chaque classe. Soigner les mémoires blessées lorsqu'elles surgissent ou lorsqu'elles surgissent pas, peu importe, lorsqu'elles se formulent, de différentes façons. Il me semble que, voilà, un peu ce que aujourd'hui je dirais quels sont mes axes, et quand j'ai des collègues en formation, ce sur quoi j'insiste, c'est vraiment de faire toucher, de faire sentir aux jeunes qui nous sont confiés que nous sommes embarqués dans une même histoire. Et à partir du moment où nous sommes dans une même histoire, les mémoires, d'un seul coup, elles ne disparaissent pas. Les blessures ne disparaissent pas, mais elles s'apaisent. Un dialogue devient possible, parce que nous sommes embarqués dans ce même récit. Ensuite, enseigner l'histoire, c'est aussi poser des faits. Certes, ces faits, il faut les interpréter, il faut les questionner, ils ne surgissent que parce qu'on est allé les chercher, mais tout n'est pas équivalent. Il y a, voilà, quelque chose qui résiste, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il y a souvent, voilà, de l'inexplicable, des comportements, des choix, des décisions, de l'événement qui surgit. Et ça, c'est aussi quelque chose, il me semble, être une grande vertu de cette discipline historique. Et puis, la troisième, alors là, vous l'avez déjà devancé, c'est celle de montrer les futurs possibles du passé. C'est-à-dire que le passé est toujours gros de toutes sortes d'avenir. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple du programme de première, dans le cycle terminal, donc en classe de première, le programme d'histoire en première, qui est un programme, je dirais que si on sort de ce programme, les élèves qu'auront-ils étudié ? Ils auront étudié la biographie d'Hitler, de Staline, de Pol Pot. Ils auront vu les quatre génocides, ou en tout cas identifiés tels, du XXe siècle, les deux guerres mondiales. Voilà pour l'essentiel. Après, le reste, c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours prioritaires, étant donné la construction du programme. Et il manque donc... Du coup, l'homme n'a que deux figures dans cette histoire. Soit c'est un bourreau, soit c'est une victime. Et il n'est rien d'autre. Et je trouve que cette histoire-là, elle est tronquée. Elle est tronquée de la complexité et de l'épaisseur de ce qu'est l'humanité. Et il me semble qu'il y a des contrepoints qui manquent fortement. S'il y a quelque chose à faire dans les programmes d'histoire, ce serait plutôt de les dépolitiser, c'est-à-dire de faire en sorte que ces hommes politiques qui depuis, alors je crois Pompidou, lui-même souhaitait voir tous les programmes sur son bureau, avant qu'il soit validé. Après, les pratiques des présidents ont varié, mais il y a quand même toujours une espèce de souci d'intervention de la part des hommes politiques et des dirigeants pour laisser Je dirais ceux qui peuvent élaborer ces programmes, c'est-à-dire les inspecteurs et les universitaires, leur laisser plus de latitude, afin de notamment pouvoir faire remonter une anthropologie, hein, le mot est un peu gros, un peu fort, mais une anthropologie plus complète, plus complexe de l'humain. Hein, pas simplement un humain qui serait défini, justement, si je reprends mon exemple, en tant que soit bourreau, soit victime. Hein, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. Alors, je dirais que on ait besoin d'un récit national comme mythe pour vivre ensemble. Pourquoi pas, sans doute, je ne sais pas. Enfin, ça c'est je dirais que j'ai pas à me positionner là-dessus en tant que professeur d'histoire, mais ce que je sais, c'est que c'est pas quelque chose qui relève de mon métier. Ça relève éventuellement du métier des hommes politiques, d'incarner, pourquoi pas, un président, il peut être là pour incarner cela. Peut-être que les hommes politiques ou les dirigeants, les chefs d'État doivent aussi créer des mémoriaux, des événements autour de la mémoire, très certainement, mais il me semble que le lieu de l'enseignement de l'histoire n'est pas le lieu pour cela, hein, puisqu'il s'agit plutôt, s'il s'agit de définir ce qu'est un Français, pour reprendre les mots de Lucien Febvre, le Français c'est un bénéficiaire, un héritier et un créateur. Et si on ne veut pas oublier cette dimension de création, il faut justement pouvoir rendre compte de cette complexité des choses et de la façon dont le passé est toujours gros, porteur de toutes sortes de futurs qui ne sont pas encore terminés, mais qui sont possibles. Hein. Et j'aime beaucoup terminer, mais justement en contrepoint, je terminerai avec ça dans ce programme de première, évoquer la figure de Hans et Sophie Scholl, les fondateurs, enfin deux des fondateurs et du mouvement de résistance en Allemagne, la Rose Blanche. J'aime bien parler d'eux parce qu'ils ont à peu près l'âge de mes élèves, à quelques années près, parce que lorsqu'ils avaient l'âge de mes élèves, ils venaient juste de sortir des jeunesses hitlériennes. Ils venaient juste de rompre avec ce mouvement auquel ils avaient adhéré au début avec un certain enthousiasme. Et ils ont, en Allemagne, pendant la guerre, fait quelque chose qui était absolument vain, distribuer quelques milliers de tracts qui n'ont eu sur les médias, dans l'immédiat, pas forcément une très grande efficacité. Et pourtant, ce passé, on va dire, qui a été tué par la hache nazie avant même qu'il ne puisse être fécond, a laissé une immense fécondité beaucoup plus tard, hein, dans l'histoire et au sein de la jeunesse allemande. Voilà, donc je dirais que un récit national peut-être, mais c'est certainement pas au professeur d'histoire qu'il faut le demander, et à chacun son travail.
Merci. Merci Franck pour cette intervention. À partir d'une pratique, on voit revenir ce thème du temps, du rapport au temps, dans ce passé disloqué, dans ce passé en miettes, dans ce futur incertain, dans cette complexité, cette pluralité, comment retisser peut-être tous ces éléments, comment réouvrir des futurs possibles qui ne soit pas justement cette pseudo-cohérence des thèses du complot ou d'autres récits surplombants. Voilà, les enjeux sont posés. Les réponses ne sont pas simples, évidemment, mais le panorama du débat est posé. Nous avons maintenant un bon moment pour prolonger l'échange par des questions. Donc, comme d'habitude, nous allons un micro circule dans la salle. Nous allons prendre deux ou trois questions pour commencer. Alors, qui se lance dans prise de questions? Voilà, au troisième rang.
Merci de me donner le grand honneur de commencer. Je voudrais rappeler quelque chose qui me heurte beaucoup dans énormément de discours sur l'histoire, et notamment l'histoire de France, probablement encore plus du côté des politiques que des historiens, c'est de vouloir juger le passé avec les yeux du présent, et non pas de juger, par exemple, ce qu'a fait Charlemagne avec les mentalités, en particulier l'énorme poids de la religion qui étaient de règle à l'époque. Je vais prendre un exemple très simple. On parle des conversions forcées des Saxons. Mais en convertissant les Saxons, Charlemagne et ses chrétiens ont fait dans leur esprit une œuvre de charité envers eux. Parce que l'usage à l'époque, c'était quand on avait des ennemis à sa merci, on en tuait un grand nombre et les autres, on les réduisait en esclavage, point la ligne. Là, non seulement on leur a donné la vie, la liberté, ils n'ont pas été esclaves, et en plus on leur apportait ce qui, aux yeux des chrétiens qui étaient Charlemagne, était extrêmement important, c'était la vie éternelle. Bon, je prends un exemple volontairement exceptionnel, mais par exemple ce qu'on entend au niveau des croisades, c'est exactement la même chose. On parle de colonialisme, ça n'a absolument rien à voir avec une démarche coloniale. Se croiser, c'était un acte de foi, un acte pieux, au même titre qu'un pèlerinage. La preuve, c'est que les confesseurs imposaient souvent la croisade comme pénitence.
Merci. Nous prenons une deuxième question. Alors, voilà, au milieu.
Oui, je trouve très intéressant le témoignage d'un enseignant avec en face de lui des jeunes. Alors, on va retourner à la question. Il y a ce que vous voulez faire passer comme information, formation, mais qu'est-ce que eux ont-ils envie de connaître de cette histoire? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'il y a des périodes qui les intéressent plus que d'autres? L'actualité ou au contraire les Gaulois? Je ne sais pas.
Merci. Il y a une troisième question. Voilà, revenons devant.
Oui, alors pour avoir été inspectrice de 98 à 2015, et m'être beaucoup ennuyée au fond de certaines classes. C'était dans l'enseignement agricole, mais bon, ça, c'est on était à
c'est le meilleur.
On était oui, on est bien d'accord.
Le plus libre.
On était à compétence nationale. Je pense qu'il y a besoin d'un récit. Je pense que si on ne fait pas de récit, les classes s'ennuient. On a un robinet d'eau tiède qui part des documents, de l'analyse des documents, etc., etc. Et je pense que de temps en temps, alors je ne vais pas défendre l'anecdote, et, etc., mais de temps en temps, il faut raconter. Voilà. Parce que il y a un récit national à raconter.
Merci. Alors, Jean
Monsieur qui intervenait en premier, en privé, dit il faut revivre. C'est ça, il faut comprendre. Il faut être en histoire dans un esprit de compréhension. Max Weber faisait la différence entre l'explication et la compréhension. Il faut se déprendre, en effet, de ce que nous sommes aujourd'hui, essayer d'entrer dans la tête, dans la langue de l'autre. Et c'est ça qui est passionnant, c'est la fréquentation de la différence. Mais alors si je reprends l'exemple de la croisade que vous avez cité, ne pas juger, comprendre, ne pas non plus dissimuler. Si on veut entrer dans la mentalité des croisés, il faut aller peut-être un peu plus avant par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur. Les croisés, s'ils étaient comme des pèlerins, c'est qu'ils pensaient que le futur était là, que c'était une mentalité eschatologique qui les guidait. La Jérusalem, c'était une image de la Jérusalem céleste. Et ça justifiait donc des comportements violents qu'il faut aussi ne pas cacher. Puisque on est dans un temps qui est proche de la fin des temps, tout est possible. La paix est là demain. L'unité du genre humain. Donc, dans le temps qui précède ce qui va advenir et qu'on attend avec tant d'impatience, on peut massacrer. Il y a un livre dont j'espère que les études rendront compte et qui mérite une véritable discussion pour nous autres chrétiens. C'est le livre d'un universitaire de Stanford maintenant à Vienne qui s'appelle Buck et qui vient de paraître dans la bibliothèque des histoires de Gallimard et qui, moi, est un livre qui m'a vraiment bousculé, assez vertigineux. Ça s'appelle « Violence et guerre dans l'Occident chrétien ».
Nous l'avons reçu et nous en parlerons.
Quand je lis le récit qu'il fait en utilisant des chroniques un peu oubliées de l'époque, et que je vois les chevaliers chrétiens manger les Sarrasins au moment de la prise de Jérusalem. Et non pas parce que la logistique de la croisade était mal faite et que la nourriture ne leur parvenait pas, mais parce que manger l'adversaire allait semer la terreur chez lui, montrer la puissance des lieutenants de Dieu qui étaient là, qui voulaient passer à l'assaut des murs de Jérusalem, désarmer l'ennemi et rendre le temps eschatologique dont on espérait qu'il arrive le plus vite possible plus proche. Alors si on raconte la croisade comme ça, voilà des faits qui font récit et qui vont frapper les imaginations. Enfin, j'imagine que quand on raconte ça à une classe aujourd'hui, faut-il le raconter, je ne sais pas, vous allez avoir tout de suite des rapprochements qui vont surgir avec le djihadisme. D'ailleurs, Buck, quand il fait ce livre, dit « Moi, j'ai pris le parti de chercher tout ce qui, dans le christianisme, amène de proche en proche à la violence. » Il dit « J'aurais pu prendre le parti inverse, c'est-à-dire expliquer tout ce qui, dans le langage du Christ, amenait la paix et précédait les droits de l'homme. Mais j'aurais pu faire, dit-il, le même récit, mais je ne suis pas spécialiste ni compétent, de l'islam et de sa descendance. » Donc la compréhension doit inclure l'exactitude et va amener nécessairement la comparaison chez les individus très divers qu'on a maintenant dans une classe. Alors ça devient vertigineux.
On a ici un exemple typique du détour par un récit pour comprendre qui on est, en fait. Et ça, je vais essayer de répondre un peu aux trois questions en même temps. Alors, quand je critiquais le récit national, c'est pas le récit en soi. Hein. C'est absolument évident que faire cours d'histoire sans faire un récit, franchement, quel est l'intérêt, hein. Hein, autant enseigner, enfin je sais pas, mais franchement, c'est... Et du coup, à partir du moment où on raconte, évidemment, tous les élèves, y compris ceux qui ne veulent rien faire, enfin, sont passionnés. Enfin, moi, honnêtement, j'ai jamais vu d'élèves qui s'ennuient en cours d'histoire. En cours de géographie aussi, sans doute parce que je suis pas géographe, mais aussi parce que, justement, enfin, je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut peut-être réformer, c'est plutôt l'enseignement de la géographie. Hein, je regardais tout à l'heure les nouveaux programmes de géographie au collège, c'est assez affligeant. Parce que c'est une géographie du réseau, de la surface des choses. Il y a quasiment plus de lieux précis. Alors évidemment, quand on doit expliquer une métropole, il faut bien qu'on en choisisse une concrète, j'imagine. Mais je suis un peu... Alors bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans une polémique là-dedans. J'espère qu'il n'y a pas de géographe dans la salle. Mais il me semble que cette dimension de la chair est tout à fait essentielle. Et du détour... Il y avait une question extrêmement pertinente qui était au programme de terminale, du programme actuel, et qui était retirée quand il avait fallu faire des allègements. Je ne sais pas pourquoi. C'était la question du rapport entre religion et politique aux États-Unis, depuis la fin 19e à nos jours. Extraordinaire. Malheureusement, elle est restée qu'une seule année. Mais à travers ce cours, on pouvait enfin parler de la question de la laïcité. Les élèves pouvaient enfin comprendre ce que c'était que la laïcité. Parce qu'on a parlé de la sécularisation, on voyait un autre système de rapport entre le politique et le religieux, et c'est extrêmement pertinent, bien plus que tous les cours d'éducation civique et morale sur la laïcité, où on amène les choses de front, et justement parce qu'on les amène de front, on n'arrive pas à refroidir tout cela, y a à dépassionner, alors qu'en faisant ce détour-là, en racontant l'histoire des autres, hein, et la question de l'anthropophagie, c'était mon dernier cours juste avant les vacances, sur la conquête, la colonisation de l'Amérique latine, on rencontre ces Indiens anthropophages. Et les élèves qui regardent, ils disent, mais c'est des barbares, c'est évident, et ces anthropophages. Et voilà, donc voilà, évidemment, là, on est dans l'exotisme, l'étrangeté de l'histoire qui rend notre familier étrange en retour. Et c'est ça, ce détour-là, qui évidemment passe par le récit, et qui est, à mon sens, la principale vertu de l'enseignement de cette discipline.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites de la géographie, qui pratique maintenant une langue extrêmement technique, et qui ressemble de plus en plus à l'enseignement de la poésie telle qu'il est pratiquée par les didacticiens en français, avec l'usage de mots qui sont étrangers au commun des mortels, aux parents comme à nous autres. Et on parle très 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 peu de la géographie. Et pourtant, c'est absolument essentiel aujourd'hui. Parce que le grand problème, c'est quand on parle de la France, la méconnaissance de la France. Parce que vous citiez le sens du commun, l'enquête qui a été menée sur ce qui subsiste de base commune chez les élèves, les repères dans l'histoire de France qui, quoi qu'on en dise, existent, au moins à la façon de Pierre dans un gué. Et on peut finalement passer d'une rive à l'autre, traverser, distinguer un peu les siècles. Mais alors en géographie, les élèves ne savent plus rien situer. Moi, je suis frappé de la disparition de l'usage de la carte. Sur quoi était fondé l'enseignement de la géographie? L'autre jour, j'ai fait une émission dans les Côtes d'Armor avec une jeune fille, reporter dans une télé qui ne travaille que sur les Côtes d'Armor. Elle n'avait jamais vu une carte des Côtes d'Armor, mais bien sûr, la Terre est plate maintenant, et les Côtes d'Armor sont plates. Elles sont là sur l'écran, devant le volant. Et l'idée qu'il puisse y avoir des vallées, des forêts, a disparu. Il n'y a plus qu'une trajectoire qui vous est définie sans que vous sachiez vous diriger vous-même. Et vous voyez bien comment l'usage des trains s'est transformé. Tout ce qui n'est pas sur une ligne de TGV a à peu près disparu. L'autre jour, on allait à Clermont-Ferrand avec des gens de France Inter. L'idée même de prendre le train leur était devenue étrangère. Ils ont pris l'avion pour aller à Clermont-Ferrand. C'est beaucoup plus long. Mais y a-t-il encore un train pour aller à Clermont-Ferrand? Donc le terrain, la carte, la liberté des hommes de s'inscrire dans le paysage, tout ça a pratiquement disparu de l'enseignement de la géographie. Et l'urgence, elle est en effet là, parce que rassembler les Français par un récit national, défendre les frontières de la France, ça nécessiterait déjà qu'on les fixe, qu'on sache à peu près où elles sont, où est Strasbourg par rapport à Troyes et Vintimille par rapport à Perpignan.
Alors, reprenons une série de questions. Alors, il y a une main qui s'est levée devant.
Vous avez évoqué tout à l'heure ce lien entre la politique, entre le devenir, l'action, l'administration de la cité et l'histoire qui viendrait nourrir ou permettre à cette politique de faire des projets, de construire un avenir. Et dans le même temps, l'histoire est elle-même ou devrait être le récit de cette vie publique, de la façon dont ont vécu, dont sont organisées les sociétés. Alors, il m'était venu une citation à l'esprit, je voulais avoir votre avis là-dessus. Le général de Gaulle écrit dans ses mémoires de guerre, je crois que c'est la première phrase, « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France ». Donc, quel est ce lien entre une certaine idée de la France, le récit, et est-ce que c'est nécessaire d'avoir une certaine idée de la France pour faire de la politique?
Merci. Autre question? Alors, tout à fait dans le fond.
Oui, Franck Damour, vous avez parlé, vous avez dit qu'il fallait soigner les mémoires blessées. Donc, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur vos classes, en fait. Est-ce que parmi vos élèves, il y a des élèves qui ont une mémoire blessée? Alors, on imagine que ce sont peut-être des enfants d'anciens colonisés, peut-être, mais qui sont les autres enfants, en fait? Voilà, est-ce qu'il y a des oppositions au sein de vos classes entre des mémoires qui seraient blessées? Et puis, comment vous faites, en fait, pour soigner les mémoires blessées? Je pense au livre notamment de Benjamin Stora, Transfert d'une mémoire, qui a été réédité l'année dernière et qui justement insiste sur l'idée de pouvoir faire de l'histoire ensemble. Je voudrais que vous en disiez plus sur cette notion de soigner les mémoires blessées en tant que prof d'histoire dans le secondaire.
Merci. On me signale qu'il y avait une main qui s'est élevée au milieu. Voilà.
Je répète ma question. Qu'est-ce que les élèves dans le secondaire ont envie d'apprendre de ce qu'on appelle l'histoire?
Merci. Alors, peut-être commencer par cette question.
Oui. En fait, ils ont envie qu'on leur raconte des histoires. Voilà. Honnêtement, je ne vous cache pas que dans la totalité des programmes, il y a des questions qui, moi, ne m'intéressent absolument pas. Je ne sais pas, en terminale par exemple, on a une question sur le mouvement ouvrier allemand de 1875 à nos jours. Il n'y a rien de plus exotique pour les élèves. C'est vraiment, c'est un autre monde. Ils ne comprennent strictement rien au marxisme, ils ne savent pas ce que c'est qu'un communiste, qu'un socialiste, etc. Et donc, quand j'écris l'intitulé au tableau, j'avoue que je ne suscite pas a priori un enthousiasme. Voilà, hein, ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire, ils ne comprennent rien, etc. Et en même temps, voilà, une fois qu'on est rentré dedans, ça peut devenir extrêmement passionnant et ça peut faire ressortir des mémoires blessées, justement. Alors j'y pense, hein, comme ça j'enchaîne sur l'autre question. Cette année, justement, ben voilà, il y a une jeune fille là qui m'a parlé de son grand-père ouvrier qui n'arrivait plus, enfin lui avait parlé un peu de ce qu'il avait vécu, de ses luttes qu'il avait menées. Ma mémoire est bonne, il était syndicaliste, et sauf qu'elle n'avait pas compris ce que c'était, et qu'il y avait une espèce de quelque chose qui manquait, un maillon dans la famille. Ses parents, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y avait une tension entre son grand-père et ses parents, ou son père, ou sa mère, je ne sais plus exactement, autour de cette question-là. Alors peut-être que, voilà, ça c'est un exemple de mémoire blessée. C'est pas forcément la question d'élèves dont les parents ou grands-parents auraient été dans d'anciennes colonies françaises. Alors, ça ressort, mais je dirais que c'est assez variable. Il n'y a pas de règle. Il y a des classes où on se dit en début d'année, ah ben peut-être que ça va ressortir, et puis finalement ça ne ressort pas, parce que ça dépend beaucoup de la culture familiale. Alors après, il y a des périodes. C'est vrai qu'en ce moment, la question de l'islam, parce que beaucoup d'élèves se définissent, enfin une partie des élèves se définissent pas tellement par rapport à leurs origines nationales, mais par leur appartenance religieuse, réelle ou imaginaire. Et donc là, oui, ça, ce sont des questions qui reviennent. Là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Alors, comment faire? À un moment où on note, je crois qu'il faut arriver à enseigner les choses en mettant cette espèce de distance et en même temps de la passion. Je vais prendre un exemple très simple. La question d'enseignement de la Shoah. Alors voilà, ça c'est une question, je veux dire, pour l'égard desquelles les élèves ressentent une forme de saturation. Pourquoi? Parce que à l'école primaire, alors après c'est plus ou moins fait, je sais pas, mais au collège, au lycée, on en reparle. Et surtout, souvent, ce sont des cours, alors c'est en train de changer, me semble-t-il, mais souvent c'était des cours qui n'étaient pas des cours comme les autres. C'est-à-dire que les professeurs avaient parfois tendance à convoquer, c'est l'occasion de faire venir un témoin, voilà, c'est l'occasion de montrer un film et de mettre de l'émotion. Et ce cours pas comme les autres, du coup, à mon avis, perdait de son efficacité et de sa capacité à soigner des choses. Alors que si c'est raconté et expliquer, y compris avec les documents. Les documents sont très importants parce que, alors je suis pas forcément un grand fan, hein, c'est pas ma génération peut-être, hein, celle dans laquelle j'ai été formé, du document à tout prix. J'ai jamais fait ça, mais il est très important pour créer cette distance. Cet effet un peu d'étrangeté qui va pouvoir apaiser les choses et montrer qu'on est embarqué dans la même histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passion quand on va raconter, mais de la passion de l'homme, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous décriviez la chose tout à l'heure, la passion de tous les hommes. Voilà, de ceux dont on parle, sans qu'on ait à les juger. Mais pas la passion au sens du pathos, de l'affectivité, parce que là évidemment les choses ne fonctionnent pas. Et tout début, hein, quand j'ai commencé à enseigner dans les années 90, je ne vous cache pas que le premier cours sur la Shoah, mais c'est lié un peu à ma génération, j'étais très ému, anxieux, et je me rappelle d'avoir vu un de mes professeurs pleurer en cours à ce moment-là. Et donc voilà, j'avais tout cela. Et du coup, les cours, ces cours-là, ces leçons-là, ne se passaient pas bien. Elle pouvait laisser surgir des mémoires contrariées. Quelqu'un qui, tout d'un coup, va vous dire « Mais d'accord, mais les Juifs, aujourd'hui, voyez ce qu'ils font en Palestine. » Et puis, s'ils ont vécu ça, c'est qu'ils l'ont peut-être mérité quand même. Hein. Pourquoi eux et pas les autres? Il y a peut-être une raison quand même. Voilà. Et depuis que j'ai changé ma façon de faire, c'est-à-dire sans rien cacher, etc., mais sans mettre forcément cette émotion qui m'habitait moi, en mettant cette distance-là, eh ben, du coup, tout le monde peut se retrouver dedans, y compris ceux qui pourraient avoir des comptes à régler aujourd'hui pour des raisons X ou Y avec l'État d'Israël. Hein, je crois que la sortie, elle est là, véritablement. Et c'est pour ça que le document, les documents, ben, ils nous protègent. Et c'est pour ça qu'on devient historien quand même en regardant des archives, quoi. Enfin, en regardant des papiers, en essayant de voir ce qui a été fait. Et je crois que ça serait important qu'on puisse y revenir régulièrement, nous, en tant qu'enseignants. On a rarement l'occasion de le faire, hein, mais y revenir aux documents. Pas simplement être dans la lecture d'ouvrages de seconde main, voire de troisième main, parce que ces documents, ils nous protègent, justement. Et ils permettent de recréer ce discours qui devient, ce récit qui devient libérateur.
Mais si on jouait carte sur table, peut-être votre expérience à Blois permettra-t-elle de répondre à la question que je me pose souvent en retournant à Saint-Denis, comment ferais-je aujourd'hui ? À l'époque où j'y étais, on arrivait avec un peu d'habileté à faire parler des communistes et des anticommunistes, des Chiliens et des Cambodgiens. Mais aujourd'hui, quand on voit l'état de la fracture, l'état de fracture de cette ville, enfin, grosso modo, la basilique, qui n'est plus fréquentée que par des Antillais et des Asiatiques, plus l'organiste blanc et vieillissant, le centre de Tariq Ramadan, les élèves qui se voient interdire parfois par leurs parents la fréquentation de la basilique dans une ville, dans une visite scolaire. Je me souviens être allé au deuxième lycée de Saint-Denis il n'y a pas longtemps, le lycée Sugère, où se sont passés les incidents que vous savez peut-être depuis la rentrée. C'était le jour de l'Aïd, le lycée était vide. Il n'y avait pas d'élèves, pratiquement. Non. Alors, comment est-ce qu'on fait à Saint-Denis, avec cet état de fracturation, comment on raconte, prenons l'exemple, Franck, de l'arrivée des musulmans en France. Comment raconte-t-on l'arrivée des musulmans en France ? Parce que moi, en effet, comme vous, j'ai été frappé de l'effort historique que la communauté musulmane instituée dans ses journaux, ses magazines à assez grand tirage, fait pour raconter le 7e et le 8e siècle. Alors, ils vous disent... il n'y a pas eu du tout d'invasion, c'est une sorte de dissémination, une longue colonne pacifique ou à peu près, avec les femmes, les enfants, les impedimenta qui montent là, le long du Rhône et qui va loin. Du côté de Narbonne, ça se passe merveilleusement bien, parce qu'il y a des traces archéologiques maintenant qu'on peut utiliser, ce sont les documents que vous citiez, mais on a aussi beaucoup de chroniques, plus ou moins légendaires, qui nous disent que le prince musulman de Narbonne a voulu ou a épousé une femme de seigneur local et qu'une sorte de paix s'était déjà installée. Comment est-ce qu'on peut raconter ça? Ça vous est déjà arrivé de tenter tenter de le faire, parce que c'est intéressant de remonter à cette période.
Alors, bon, enfin, au lycée, le programme le permet guère, mais cela dit, en seconde, moi, j'ai ramené une question du programme précédent qui a disparu, qui était celui de la Méditerranée au XIIe siècle. Et cette question, d'ailleurs, elle était introduite dans le nouveau programme du collège, là, hein, à peu près, et elle permet de faire ça, justement. Alors, de voir cette confrontation, la complexité des identités, et c'est à chaque fois l'occasion de faire tomber, de mettre de la distance. Alors, après... autant sur ces questions-là, je dirais que si on fait la comparaison, peut-être, enfin, je ne sais pas, moi, j'ai jamais eu d'élèves communistes. Enfin, j'en ai eu quelques-uns, mais avec lesquels la discussion était toujours, n'a jamais posé de soucis. Là, c'est vrai que dans certains cas de figure, il y a une forme de mur parce qu'il y a un déni de légitimité de ma parole. Ça, c'est certain, et c'est pas seulement dans le secondaire. C'est aussi des collègues qui enseignent l'histoire de l'islam dans le supérieur et qui sont confrontés très souvent à des contestations avec tout un argumentaire qui est proposé pour remettre en question cela. Alors voilà, je vois que là, j'ai pas de réponse plus que ça, mis à part le fait qu'il y a eu sans doute une forme un peu d'évitement de ces problèmes, je pense, pendant de longues années. De ces questions-là, de la part de certaines autorités. Je pense par exemple aux questions de l'enseignement du sport, hein, voilà, où on essaie de contourner lorsqu'il y a un refus d'envoyer les filles à la piscine, etc. Voilà, là, sans doute, il y a un retard, je pense, pour prendre les choses de front.
Mais pour répondre à l'interrogation de monsieur sur la demande, est-ce qu'il ne faut pas partir quand même davantage qu'on ne nous le dit de la demande ? Moi, j'apprécie positivement le fait que vous disiez « Oh ben moi, j'ai ramené une question de seconde en première. Moi, il y a des questions du programme qui m'intéressent plus ou moins. La liberté de l'histoire que vous réclamez, est-ce que ça passe pas aussi par une liberté plus grande des professeurs par rapport au programme en fonction des différentes caractéristiques de la demande des élèves face auxquelles ils sont? Parce qu'il y a quand même une chose qui me frappe, moi, au nom de mon expérience antique. Il me semble, est-ce que c'était parce qu'on était des enseignants d'après 1968, sans Dieu ni maître, mais il me semble qu'on avait, vis-à-vis des programmes, une liberté beaucoup plus grande que les enseignants d'aujourd'hui. Mais pourquoi les enseignants sont-ils le doigt sur la couture du pantalon devant les programmes des inspecteurs. Les inspecteurs n'ont aucun pouvoir. à cause des parents d'élèves, dont la pression est de plus en plus grande, puisqu'ils observent, notamment grâce au carnet électronique, la progression des professeurs dans le programme. Mais pourquoi les professeurs ne prennent-ils même pas la liberté qu'il aurait donné d'adapter le programme? Moi, je les ai entendus pigner pendant des semaines. Vous devriez en parler à la radio, c'est un scandale. On étudie la Deuxième Guerre mondiale avant le nazisme, mais les auteurs des programmes disaient, mais vous mettez les choses dans l'ordre que vous voulez, et ils ne prenaient même pas cette liberté.
Alors, concrètement, on est quand même mis moins sous pression que les collègues de maths, hein. C'est sûr que les collègues de maths, s'ils finissent pas le programme, là, l'année suivante, ils peuvent venir faire cours tard le soir et jamais le matin. Après, la seule contrainte, c'est le bac. Enfin, voilà, en terminale, ça c'est une chose, là on a moins de latitude. Pour le reste, si je prends l'exemple, alors j'imagine que vous faites allusion au programme de première, qui est un programme qui n'est pas chronologique théoriquement. Il nous a été présenté comme, au contraire, on devait absolument respecter cette approche thématique. Mais voilà, moi j'ai essayé un an, deux ans, puis après j'ai abandonné, et je crois que, enfin je sais pas, mais je suis pas guide de chiffres, mais à mon avis, 80% des collègues ont renoncé à cette approche thématique et ont remis les choses dans l'ordre, et on a vu le nazisme avant d'avoir la Seconde Guerre mondiale, parce que sinon, évidemment, c'est assez incompréhensible,
c'est mieux, oui.
Et puis c'est une perte de temps. En terminale, on n'est plus contraint. Je suis pas certain qu'il y ait une telle absence de liberté par rapport au programme. En tout cas, j'ai jamais entendu parler d'un collègue qui était sanctionné pour ça. Hein, donc, et puis je vois pas qui pourrait le sanctionner. Et de la part des familles non plus, du moment que le cours a lieu, qui est vraiment un cours, que les élèves apprennent des choses, c'est ce qu'ils attendent surtout d'un programme d'histoire, et jamais de géographie. Hein. Alors j'ai jamais aucune question sur la géographie de la part des parents d'élèves, ça, apparemment, mais peut-être parce qu'ils ont regardé ce que c'était, qu'ils ont vu qu'ils n'y comprenaient rien, et voilà.
Madame l'inspectrice.
Alors, oui. Attendez le micro.
C'est pas en tant qu'inspectrice que je parle.
D'abord, vous étiez inspectrice en quoi ?
J'étais inspectrice en histoire géo.
Ah bon, alors.
Mais dans l'enseignement agricole, mais c'est en tant qu'habitante de la Seine-Saint-Denis, j'habite Saint-Ouen, j'ai été 20 ans prof à Bondy, et là, cette année, j'ai été déléguée jubilaire pour le jubilé de du diocèse de Saint-Denis. Qui a fêté ses 50 ans, puisque c'est en 65 que Saint-Denis est devenu un diocèse. La basilique était pleine, et pas seulement de gens colorés, même s'il y en avait beaucoup, et on ne peut pas dire que c'est une basilique qui est désertée. Bon, ça c'était un point pour revenir là-dessus, avec nuit d'adoration, etc., etc. Ce que je voulais dire, c'est que je pense... Alors, il y a effectivement le problème de l'épreuve terminale ponctuelle du bac. En terminale, on est contraint par la nécessité de leur faire réussir l'examen sur lequel on n'a pas la main. Mais par ailleurs, quand même, les profs, ils ont un peu de liberté. Et je pense que ce qui compte, c'est la conviction des collègues. C'est le fait que les collègues ont envie de faire passer telle ou telle chose. Et c'est vrai que comme on est une majorité d'historiens, ils ont plus envie de faire passer des choses en histoire qu'en géo, je pense. En géo, on joue sur les inégalités, on joue sur... Mais y a quand même une grande liberté et la conviction des profs compte beaucoup. Voilà, sauf en terminale, où l'épreuve ponctuelle terminale pilote tout le monde. Mais je ne voudrais pas qu'on dise que la basilique de Saint-Denis est déserte.
Ah bah non, je n'ai pas voilà. dit qu'elle Donc, était déserte. Je reproduisais le témoignage que j'ai eu il y a 15 jours, mais c'est une langue bien pendue, de l'ancien curé de Saint-Denis. Non, de Philippe. Je ne savais pas qu'il était monseigneur, mais il ne se comporte pas comme tel. C'est lui qui m'a dit ça, je le cite textuellement. Mais il est un peu ironiste.
Oui, il y a plusieurs interprétations du même événement.
Non.
Alors, reprenons une série de questions. Alors, dans le fond, tout à fait dans le fond.
Allô ? Voilà. On parle de récits pour la France. On a parlé de la Shoah. Il y a depuis, finalement, les récits de la Révolution avec les persécutions contre le clergé, l'horreur qu'il y a eu à Rochefort, dont on évoque peu le souvenir. Est-ce que, quelque part, dans les récits que l'on fait en histoire, la religion n'est pas malmenée par une histoire de la laïcité bancale et que avec l'arrivée d'un islam quand même beaucoup plus fort, on a un problème d'inadéquation. C'est-à-dire qu'on a mal traité ce rapport entre la politique et la religion en la jugeant mal.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste devant. Oui.
Bonsoir. Est-ce que vous diriez que l'enseignement de l'histoire au jour d'aujourd'hui est politiquement correct ?
Une question directe. Est-ce qu'il y aurait une troisième question ? Oui.
Dans les programmes tels que vous les percevez, qu'est-ce qui, à votre sens, structure l'enseignement de l'histoire ? Est-ce que vous sentez une orientation, des indications, enfin, des axes d'une interprétation plus précise, plus particulière, plus située ?
Mais enfin, dans ce que je sais, les programmes sont quand même un peu la résultante d'un rapport de force extrêmement complexe. Alors il y a de la part des initiateurs des axes les doyens de l'inspection d'histoire ont des principes, veulent défendre des idées, alors que ce soit Laurent Wirth qui avait fabriqué les programmes, qui avait initié la fabrication des programmes il y a quelques années, ou bien, je vous recommande ce livre, le livre de Dominique Borne, qui, ancien doyen de l'inspection générale, a fait un ouvrage pour expliquer ce qu'il rêverait de voir dans les ouvrages. C'est un chemin chronologique, avec une grande insistance d'ailleurs sur le récit, qui est assez passionnant à observer. Si je me souviens bien, il proposait qu'on commence l'enseignement de l'histoire de France par la fondation de Marseille, avant même bien sûr que l'idée, le mot de France n'existe, le contact des Grecs avec la côte méditerranéenne, mais entre ce que les initiateurs voudraient mettre en branle et le résultat, il y a un écart énorme qui tient aux différents groupes de pression, et il faut quand même mettre en cause là le groupe de pression non pas tellement de la société des agrégés qui est pas très puissante, mais de la société des professeurs d'histoire-géographie. Je me souviens de Laurent Wirth quand même un peu scandalisé de voir tant de ses collègues institués en bureau associatif faire des pieds et des mains pour que le chapitre sur les empires africains disparaisse de l'enseignement. Quel intérêt ça de savoir qu'il y a eu des empires en Afrique. Alors du coup, après, tout est quand même brouillé au bout du compte, au fond de l'entonnoir.
Tout à l'heure, on évoquait le général de Gaulle. En 1969, à l'époque, la question était de faire disparaître, enfin plutôt d'intégrer l'histoire dans les activités d'éveil, au primaire et puis au collège. Et donc voilà, ça arrive sur le bureau du général. Bon, il voit pas trop forcément. Puis un de ses conseillers, je ne sais pas lequel, lui dit « Mon général, vous allez devenir facultatif. » Voilà. Et donc vous imaginez que sa réaction. Effectivement, les programmes ont sans doute à un moment donné une cohérence, et après, quand ils arrivent, cette cohérence, on voit bien qu'il y a toutes sortes de compromis qui ont été faits par rapport à des groupes de pression mémorielle, l'association des professeurs d'histoire-géographie, le ministre, voilà, les circonstances, et puis on s'aperçoit que le programme est infaisable, et donc on allège l'année suivante, et donc on tronque, et ça devient quelque chose qui est complètement incohérent. Je prends l'exemple de certaines questions en terminale S, aujourd'hui terminale scientifique, qui accueille donc une bonne part de nos futures élites, où on étudie la construction européenne en commençant en 92, comme ça. Alors, voilà, accrochez-vous quand même pour leur faire comprendre l'intelligence et l'intelligibilité de la chose directement au moment où c'est le moins compréhensible. Hein. Voilà, parce qu'il fallait gagner du temps et que, bon, voilà, je sais pas. Voilà, donc du coup, ce qui fait que c'est complètement, c'est difficile de dire si l'histoire est politiquement correcte. Alors déjà, je sais pas ce qui est correct, enfin, ça dépend pour qui et pourquoi. Moi, j'ai un peu le sentiment que, enfin, c'est les problèmes que je pratique le plus sont ceux de lycée. Vise à répondre à des demandes ou à des questions qui sont saisies par le temps, par certains moments, sans forcément prendre de recul. Et du coup, c'est plus ça qui me gêne. Si je prends le problème de terminale, sur lequel j'ai peu la main, puisqu'il faut bien traiter le programme pour le bac, grosso modo, qu'est-ce qui reste? Le néolibéralisme. Alors ça, c'est bien une notion qu'ils connaissent. La religion, effectivement, à travers l'islamisme, point. C'est tout. Voilà, après, la question aussi, la question de la gouvernance. Voilà, c'est un petit peu les éléments forts et la question de puissance, bon voilà, qui n'est pas nouvelle, qui est ancienne. Et effectivement, il me semble que c'est une vision très tronquée de ce qu'est un être humain. Alors, pour revenir sur la première question qui est celle de la question de la religion est traitée, le fait religieux est traité, jusqu'en seconde. Ensuite, l'être humain franchit le Rubicon de la Révolution française, il n'a plus besoin de religion. Voilà. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en première, il y a quelques années, il y avait une question tout à fait passionnante sur la place de la religion dans les cultures européennes. C'était un chapitre extrêmement intéressant, où on voyait, la question du darwinisme, par exemple, ou toutes les polémiques, et puis comment se mettait en place la sécularisation, ce qui est très complexe. En terminale, donc, avait été rajoutée la question que j'évoquais tout à l'heure, celle du rapport entre religion et politique aux États-Unis. Et à chaque fois qu'il y a des allègements, ce sont les premières questions qui sautent. Mais ce ne sont pas les seules, hein. Ce sont aussi les questions d'histoire culturelle. Alors théoriquement, il y a l'histoire des arts. Alors, j'ai pas vraiment exactement très bien saisi pourquoi c'est formulé comme ça, mais une histoire culturelle plus globale, c'est quelque chose qui est franchement absent de ces deux dernières années que les élèves passent au lycée, moment où ils arrivent à une forme d'intelligibilité, de maturité. Et je trouve que c'est fort dommage. C'est fort dommage que l'histoire se rétrécisse aux questions politiques au sens technique du terme et aux questions un peu économiques. Et puis après, on choisit des questions de société. Alors l'exemple typique, c'est la République, la façon dont on traite la République en première. Alors d'abord, elle surgit comme ça, puisque les autres régimes du 19e siècle, théoriquement, doivent pas être présentés. Bon, on le fait bien sûr, mais... Et puis, c'est la République et les ouvriers. La République et les femmes, la République et l'immigration, la République et l'Église catholique. Donc, comme autant de problèmes par rapport à la construction, par rapport à la République, comme si c'était des défis à relever. Et on voit bien, lorsqu'il était rédigé ou pensé, à quelles questions, parce que c'est pas la question de l'Église catholique qui intéressait ceux qui ont proposé ça, c'était la question du rapport entre la République et les musulmans aujourd'hui, et de traiter par ce biais-là. Je crois qu'effectivement, il y a un problème dans la conception de ces programmes qui sont finalement une espèce de compromis pas très cohérent lorsqu'ils sont passés à la moulinette de toutes ces étapes, là, des médias, des débats, et puis après des contraintes, des horaires.
Excusez-moi. Mais il y aurait moins d'injonctions, on parlerait moins de problèmes, on parlerait à côté du mot récit de jeu. Est-ce que l'histoire, ça ne doit pas aussi être conçu dans les classes comme un jeu ? Je fais référence à une émission de La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin sur France Culture, sur laquelle je suis tombé il n'y a pas longtemps. Il fait une enquête systématique et présente une fois par semaine ce qui se passe réellement dans les classes. C'est de ça qu'on a besoin, et vos questions sur l'état de la demande en témoignent. Et l'autre matin... Il y avait un jeu de rôle dans une classe sur le thème de la colonisation de Madagascar. Alors l'un devait représenter les bons pères missionnaires, l'autre devait représenter l'armée française, la troisième c'était la reine de Madagascar, et on demandait à chacun des élèves d'endosser le rôle et d'entrer dans la compréhension des personnages. Ça, c'est une excellente méthode, me semble-t-il, digne des théâtres jésuites d'autrefois, pour enseigner l'histoire. Et je pense qu'on a affaire maintenant à des élèves qui découvrent l'histoire, toujours par la grande vadrouille et les tontons flingueurs. La grande vadrouille, c'est la meilleure introduction qui soit à l'occupation, bien sûr, et les tontons flingueurs à l'époque des Trente Glorieuses, mais beaucoup d'élèves découvrent l'histoire par le jeu vidéo. Mélenchon avait parlé de ça à ses justes titres en s'interrogeant et en revenant d'ailleurs sur la première condamnation qu'il avait édictée après avoir pratiqué lui-même le jeu au moment de la sortie d'Assassin's Creed consacré à la Révolution française. Mais les élèves qui sont dans un jeu vidéo d'histoire, ils sont dans une situation de choix à chaque instant, de liberté. Qu'est-ce que je vais faire disait Giscard, si j'avance là, qu'est-ce qui se passe je n'ai pas de jugement à porter, je ne connais pas assez les jeux de vidéo, mais le choix consiste souvent à combien tuer d'adversaires, les tuer en combien de temps, en massacrer 1000 ou seulement 10. Et il y a dans les jeux vidéo un enchantement du barbare ou un enchantement de la violence, mais on essaierait de pratiquer l'histoire en tenant compte de cet exercice dans lequel sont quotidiennement les élèves, en réintroduisant la notion de jeu, on n'y perdrait pas. Mais évidemment, ça ne paraîtrait pas sérieux aux hommes politiques.
Sans doute pas, mais pour terminer. C'est vrai que c'est la façon dont on enseigne, en fait, elle nous vient des élèves. C'est-à-dire la question du récit, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, c'était un petit peu la nouvelle marotte. Mais la plupart des collègues qui étaient là m'ont dit, mais ça fait quand même quelques années qu'on y est revenu, que voilà, le document s'est dilué dans un récit. Et la question du jeu, je suis toujours frappé de voir que quand j'ai des collègues stagiaires, assez naturellement, ils y viennent. Et souvent, c'est improvisé au cours d'un cours sur les idéologies au XIXe siècle. Eh ben, un tel va le faire le libéral, un tel le communiste, un tel l'anarchiste, et hop, c'est parti. Et effectivement, là, on est dans un vrai travail d'historien, puisqu'on rentre dans la peau de l'autre, on essaye de trouver les arguments qui étaient adaptés à l'époque par rapport à ceux d'aujourd'hui. Il y a tout ce jeu de distance qui est là. Et je crois que, pour ça que je pense, enfin, laissons faire un peu les enseignants, parce que ils sont portés. Enfin, il y a deux choses qui les sauvegardent. C'est certainement pas les programmes, c'est les élèves et la connaissance historique ou la pratique historique qu'ils ont pu avoir et dont, à mon sens, on ne prend pas assez garde à ces soucis qu'ils l'entretiennent au cours de leur carrière. Parce que là, on a d'un côté donc l'archive. Voilà, et puis les élèves. Et c'est cette confrontation avec ces deux barrières-là que quelque chose peut naître. Et que tous ces avenirs, tous ces qui n'ont pas été développés, se trouvent libérés.
Voilà, nous avons atteint le terme de notre soirée.
Sans répondre à la question de Pierre au deuxième rang, la certaine idée de la France.
Nous en laissons. Voilà, la question.
Moi, j'ai une formule, j'aime bien, moi, la France, c'est le pays d'où on peut le mieux aimer le monde, et c'est comme ça que la France peut être aimée. Mais enfin, c'est pas la peine de mettre ça en maxime sur le tableau, ça ne va pas être nécessairement compris d'emblée, c'est abstrait.
Bon, en tout cas, c'est une bonne phrase de conclusion pour notre soirée. Merci de votre présence, merci de vos questions, merci aux intervenants. De leur contribution. Nous sommes beaucoup arrêtés sur l'enseignement de l'histoire, effectivement, qui montre bien l'enjeu de cette discipline, ce qui incite à réfléchir plus largement sur l'histoire, sur le rapport au temps. Voilà, donc bonne soirée à tous. N'oubliez pas les caisses qui attendent votre contribution à la sortie. Voilà, merci et bonne soirée.
La prochaine, François.
Alors, malheureusement, à l'absence du père Bouédec, je ne peux pas vous indiquer le thème de la prochaine soirée qui vous sera annoncée rapidement, dès son retour.